Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, 8e année. La fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, une autobiographie philosophique.
Bonsoir, merci d'être fidèle au poste. Pour cette nouvelle séance consacrée à Freud que nous avions laissée dans ses relations à la philosophie, vous avez vu que finalement c'était un philosophe qui s'ignorait, ou c'est un philosophe qui ne veut pas être philosophe, il se présente comme un scientifique, il se présente également comme un conquistador, et il dit en ce sens qu'il sait bien qu'un conquistador n'est pas un individu franchement recommandable, que c'est plutôt fait de sacs et de cordes, ce genre d'individu, mais c'est pourtant ce qu'il propose comme hypothèse, du moins à son ami Wilhelm Fliess, c'est-à-dire... Pour la galerie, il nous dit qu'il est un scientifique, il nous dit qu'il n'est pas philosophe, et puis réellement, il fait savoir qu'il est un aventurier, puisque c'est le terme qu'il utilise lui-même. On verra que le philosophe contrarié fait tout de même un philosophe. Et pour moi, Freud est un philosophe, à l'évidence, s'il s'inscrit, comme on a eu l'occasion de le voir dans la première séance, dans la tradition des philosophes institutionnels, puisqu'on passe toujours le bac avec Freud, entre autres, de Platon jusqu'à Heidegger, on passe par Freud. C'est bien parce qu'il y a une dimension essentiellement philosophique chez lui, et comme le dit Nietzsche, et je pense qu'il le dit définitivement, bon, la préface au Gai Savoir, effectivement, sa biographie explique sa philosophie, parce que toute biographie explique toujours la philosophie du philosophe, la pensée du penseur. Donc ce que je vous propose, ce soir et un petit peu plus tard, dans les autres séances, c'est de voir l'articulation entre la pensée, l'œuvre, la théorie, le discours, et puis... les expériences existentielles, la biographie du personnage, ce qu'il aura rencontré, les individus qui auront compté pour lui, les moments forts dans son histoire personnelle. C'est un philosophe contrarié, mais qui nous dit finalement, vous verrez, je vais vous citer tout à l'heure deux extraits de lettres à Fliess, qu'il nous dit finalement qu'il est un philosophe et qu'au bout du compte, le détour se fera par la psychanalyse, certes, mais qu'il arrivera à la philosophie, qu'il réalisera son projet original, on pourrait même dire son projet originaire, pour utiliser l'expression que Jean-Paul Sartre met en avant dans sa psychanalyse existentielle. On aura l'occasion de reparler de la psychanalyse existentielle. Mais le projet originaire, c'est ce à partir de quoi s'organise une existence. C'est le choix originel que chacun d'entre vous aura fait à un moment de sa vie, jeune la plupart du temps, pour orienter le restant de son existence. Et il me semble que le choix originaire de Freud... c'est effectivement d'être un philosophe sans donner l'impression d'être un philosophe, tout en faisant de la philosophie, bien sûr. Ces deux lettres, elles datent de 1896, et c'est pas un hasard, vous allez voir, on va tourner autour de ces deux dates, 96-97, 1896, c'est l'apparition du terme psychanalyse. La lettre à Fliess, 1er janvier 1896, il nous dit donc ceci. « Je nourris dans le tréfonds de moi-même l'espoir d'atteindre par la même voie mon premier but, la philosophie. » C'est ce à quoi j'aspirais originellement avant d'avoir bien compris pourquoi j'étais au monde. 1er janvier 1896. Vous allez voir, on s'avance doucement vers la découverte du complexe d'Œdipe. C'est pas bien loin. Ça se joue autour de deux ou trois événements essentiels. Je vais vous dire lesquels tout à l'heure. Quelques mois plus tard, 2 avril 1896, toujours au même Fliess, hein, jeune homme, je n'avais d'autre désirance. Alors ça, ce sont les traductions nouvelles. J'ai choisi, moi, de travailler à partir des traductions nouvelles que les presses universitaires de France nous donnent. Simplement parce qu'on nous dit que ça a été longtemps mal traduit et les adversaires des adversaires de Freud considèrent qu'on n'a pas lu Freud correctement, qu'on ne le lit pas, qu'on ne le lit pas bien, etc. Donc j'ai pris le parti de lire les 20 volumes de l'œuvre complète dans la traduction des presses universitaires et la traduction des lettres à Fliess relève également de cette même édition, même si ça s'ajoute à l'œuvre complète. Et donc il y a parfois des néologismes ou des concessions faites à la modernité. Donc il parle, par exemple, les traducteurs parlent de la désirance. Vous aurez compris, il s'agit du désir, mais enfin, il faut faire moderne. Donc jeune homme, je n'avais d'autre désirance que celle de la connaissance philosophique, et je suis à présent sur le point de l'accomplir en passant de la médecine à la psychologie. Je suis devenu thérapeute malgré moi. Je répète, je suis devenu thérapeute malgré moi. La psychanalyse, en ce sens, on pourrait dire que c'est la philosophie de Freud. C'est la première conclusion que nous pourrions proposer, a priori, dès à présent, dire voilà, la psychanalyse, telle qu'elle est présentée par lui dans ce corpus qui est celui de l'œuvre complète, c'est effectivement la propre pensée de Sigmund Freud. Il dit que l'essentiel de son travail se trouve dans l'interprétation, enfin dans le même chose, on va reprendre les traductions nouvelles, le rêve et son interprétation, et que tout est dit dans cette histoire, dans ce livre, presque tout s'y trouve. Alors effectivement, il faut compter avec les ajouts divers et multiples, et vous verrez qu'un ajout de 1911 dit des choses essentielles et que ce sont toujours les ajouts, les notes, les petites choses en bas de page qui font sens et qui disent des choses essentielles. Il nous dit de ce livre qu'il est majeur, qu'il est fondateur. Il pense qu'il va laisser une trace dans l'histoire universelle. Il pense à, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, à des plaques qui célèbrent son génie apposées sur ses maisons, où il imagine qu'on installera des statues pour le vénérer, pour le célébrer à l'université. Enfin, il pense effectivement qu'il est un génie, qu'il le sera et qu'il l'est, et que son génie procède de ce livre, Le rêve et son interprétation, ou l'interprétation du rêve. Il donne une datation symbolique, il dit que cet ouvrage date de 1900, ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire que ça date de fin 1899, mais il considère qu'effectivement, quand il s'agit de marquer son temps, d'ouvrir un siècle qui est en même temps ouvrir un millénaire, qui est en même temps ouvrir une nouvelle époque, eh bien finalement il faut proposer un nouveau compute, enfin la possibilité d'un nouveau calendrier à partir duquel on pourra enfin compter. Comme il y aurait avant et après Jésus-Christ, eh bien il y aurait avant et après Sigmund Freud, 1900 est la date de parution de cet ouvrage majeur selon lui, dont il nous dit qu'il est un ouvrage de science et un ouvrage de scientifique. Pourtant, il nous dit que ce livre procède d'une auto-analyse. On va dire quelques mots sur ce concept intéressant, l'auto-analyse, parce que effectivement c'est l'acte fondateur, l'auto-analyse de la psychanalyse, et si on touche à l'auto-analyse, eh bien finalement on touche aux fondations mêmes. Il nous dit dans cet ouvrage, hein, « Pour moi, en effet, ce livre a encore une autre signification subjective que je n'ai pu comprendre qu'après l'avoir terminé. Il s'est révélé être pour moi un fragment de mon auto-analyse, ma réaction à la mort de mon père, donc à l'événement le plus significatif, la perte la plus radicale intervenant dans la vie d'un homme. Après avoir reconnu cela, je me suis senti incapable d'effacer les traces de l'action exercée par cet événement. » De fait, il nous le dit, si on met en perspective les lettres à Fliss, qui nous racontent le détail de ses somatisations, de l'état de son corps, de l'état de son âme, on découvre un certain nombre de choses, des migraines, des saignements de nez, des problèmes intestinaux, des humeurs dépressives, des pannes sexuelles, des fatigues, des somatisations diverses et de l'inspiration tarie. On n'arrête pas de trouver dans ces lettres-là, effectivement, des témoignages sur le corps de Freud, sur le mauvais état du corps de Freud, sur le mauvais état de sa psyché également. Il nous dit combien il est dépressif, combien il ne va pas bien, combien il est incapable de produire, combien il est incapable de travailler, combien il est incapable d'avancer quelques idées qui puissent tenir la route correctement. Il fait savoir également qu'il a besoin de beaucoup de cocaïne. Il y a un moment très précis où il nous le dit, qu'il a besoin de beaucoup de cocaïne. Il ne faut pas oublier que nombre de textes auront été écrits sous l'influence ou sous la domination de la cocaïne et que Freud aura été une douzaine d'années cocaïnomane. Ce qui n'est pas rien. Je ne suis pas dans la lecture morale ou moralisatrice en considérant qu'il ne faudrait pas. Simplement, on sait dans quel état ça met la cocaïne. Et de fait, nombre de textes ont été écrits sous l'influence de doses qu'on dira massives et qui ont été l'occasion pour lui de délirer superbement, rapidement, tout vient vite. Enfin, du moins, je ne parle pas d'expérience, mais on a l'impression, j'ai posé des questions à quelques individus qui connaissent les usages et la substance, qui nous disent effectivement qu'on a l'impression que tout va vite, que tout vient vite, qu'il y a une espèce d'euphorie intellectuelle, qu'on a l'impression que toutes les choses sont simples et qu'on résout tous les problèmes qui paraissent difficiles a priori. Sauf que quand on descend, a priori, on n'est pas forcément content de ce qu'on aura produit. Et vous verrez. Dans les lettres à Fliss, il nous le dit très précisément, il est très emballé par la proposition qu'il fait à Fliss, de sa fameuse étude sur la psychologie scientifique, et quelques temps après, il dit « mais je ne comprends pas pourquoi je t'ai envoyé une chose pareille, ça ne vaut rien du tout, c'est vraiment à jeter au panier ». Il parle deux fois de son hystérie dans sa correspondance avec Fliss, 14 août 1897 et 3 octobre 1897. Il écrit « je connais maintenant une période maussade, le principal patient qui m'occupe, c'est moi ». Ma petite hystérie, fortement accentuée par le travail, a un peu avancé dans sa solution. D'autres choses restent encore cachées, c'est d'elles que dépend en premier lieu mon humeur. on verra qu'on s'approche doucement dans cette aventure de la découverte, je mets ça entre guillemets, vous verrez pourquoi un petit peu plus tard je mets ça entre guillemets, de sa fameuse découverte du complexe d'Édipe qui procède à ce moment-là de sa fameuse auto-analyse. Jones lui-même, Ernest Jones, j'ai eu l'occasion de vous en parler en vous disant qu'il était le premier biographe de Freud dans les années 50, monumentale biographie de plus de 1000 pages, 1500 pages, il nous parle, il nous le dit très précisément, d'une psychonévrose fort grave entre 1890 et 1900. Donc, selon Jones, Freud souffre d'une psychonévrose fort grave entre 1890 et 1900. Pourquoi le dire ? Eh bien, pour mettre ça en perspective avec la fameuse auto-analyse. Parce qu'il aura été malade, il aura pratiqué une auto-analyse, et à l'issue de l'auto-analyse, il découvrira le complexe d'Édipe, et ayant découvert le complexe d'Édipe, il découvrira la psychanalyse tout entière, comme presque armée sortant de la cuisse de Jupiter, et de fait, il aura été le premier patient guéri par sa propre thérapie. La légende est ainsi faite qu'on fait une concession à la vérité historique en disant, de fait, il souffre d'une psychonévrose fort grave, mais il a pratiqué l'auto-analyse et, après l'auto-analyse, eh bien, effectivement, ça se trouve réglé et il comprend, Freud, comment il faut procéder pour guérir toutes les psychonévroses. Sauf que c'est une légende et que la fameuse psychonévrose, elle existe bien dans les dates que signale Jones, 1890-1900, mais qu'elle dure et qu'elle durera toute l'existence de Freud. On verra que l'auto-analyse telle qu'elle est présentée, c'est-à-dire dans un moment très précis, elle commence à une date, elle se termine à une date, et à partir de ce moment-là, Freud a découvert la vérité psychanalytique, eh bien, c'est une légende également. Parce que Freud la commence toujours, disons-le comme ça, et ne la termine jamais. C'est-à-dire, depuis le départ, il est dans une logique introspective qui fait qu'il est dans l'auto-analyse. Et l'auto-analyse, elle n'est pas terminée à un moment précis. Il écrit, et là je vais à l'autre bout de l'œuvre complète, c'est-à-dire on se retrouve cette fois-ci en 1937, on est dans la fin de l'existence de Sigmund Freud, hein. Il aborde la question un petit peu plus tard de l'analyse sans fin et de l'analyse avec fin, dans Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique. Il réfléchit sur cette question de l'auto-analyse et il nous dit, si l'auto-analyse était possible, eh bien il n'y aurait pas de refoulement. Or, il y a du refoulement, donc l'auto-analyse n'est pas possible ou elle n'est pas pensable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne théorise jamais l'auto-analyse, c'est-à-dire que vous avez 20 volumes d'œuvres complètes qui sont souvent constitués d'articles, sont souvent des interventions qui sont brèves. C'est-à-dire qu'on a une vingtaine de pages, ça peut faire 2 ou 3 pages pour les articles les plus courts, autrement une vingtaine ou une trentaine de pages. Et puis à côté, vous avez les grands livres, enfin les livres qui sont connus comme tels, mais qui sont souvent des associations d'articles également. C'est-à-dire que Freud n'est pas quelqu'un qui construit véritablement des livres. Totem et tabou, c'est un assemblage d'articles, les leçons sur la psychanalyse ou les leçons d'introduction à la psychanalyse qu'on connaissait jadis sous le titre Introduction à la psychanalyse, c'est la même chose. Ce sont des leçons qui sont ajoutées, mises bout à bout. Enfin, il n'y a pas une construction véritablement d'ouvrage chez Freud. Il y a des propositions de textes, des micro-analyses qui deviennent des événements livresques et des événements éditoriaux. Et aucun texte n'est spécifiquement consacré à la question de l'auto-analyse, qui est son aventure. À l'évidence, l'auto-analyse, ça ne concerne que Sigmund Freud. Et si vous dites que l'auto-analyse est possible, à ce moment-là, c'est la fin de l'analyse. Il n'y a plus besoin du psychanalyste si on pense qu'effectivement, une auto-analyse doit pouvoir suffire. Il le dit pourtant au départ. Il dit, mais pour devenir analyste, une auto-analyse suffira. Et puis très vite, on va codifier tout ça en disant, non, ça ne peut pas fonctionner exactement comme ça. Il faut, pour être analyste, être analysé soi-même. Il faut, pour pouvoir être psychanalyste un jour, avoir été soi-même psychanalysé. Il nous dit, Freud, effectivement, que si on recherche à l'intérieur de soi tout ce qui pourra ou tout ce qui pourrait nous permettre de découvrir ce que nous sommes d'un point de vue de la psyché, eh bien alors, effectivement, la vérité serait susceptible d'être découverte. Mais il y a le refoulement. Et le propre du refoulement, c'est qu'on ignore ce qu'il est. On sait qu'il y a du refoulement, mais on ne sait pas ce qui est refoulé. Par définition, si vous connaissez ce qui est refoulé, c'est qu'il n'est pas refoulé. C'est qu'il est à la disposition de votre conscient. Or, ce qui est dans l'inconscient est inaccessible au conscient, sauf technique particulière, la psychanalyse, bien sûr, ou d'autres propositions qui sont celles du lapsus, on verra toutes ces choses-là, du lapsus, de l'oubli, de rêve, enfin d'un tas de moyens qui vous permettraient, hypothétiquement, d'entrer dans le détail de votre propre inconscient. Dans les leçons d'introduction à la psychanalyse, il nous dit « le mieux, ce serait une analyse didactique ». Qu'est-ce qu'une analyse didactique ? Eh bien, c'est une psychanalyse que vous faites pour savoir qui vous êtes. Et elle s'oppose à un autre type d'analyse qui est l'analyse que vous faites parce que vous souffrez, parce que vous êtes dans la douleur, parce que vous êtes dans la peine, parce que vous avez du mal à être et que vous souhaitez savoir ce qui se passe. Ça, c'est l'analyse au sens classique du terme. Si vous allez chez le psychanalyste en disant « non, je voudrais moi-même devenir psychanalyste, donc j'ai besoin de savoir qui je suis pour éviter les projections sur les patients », alors vous faites ce qu'on appelle une analyse didactique. Vous la faites pour connaître les mécanismes de votre psyché. Freud nous dit donc le mieux, ça reste quand même l'analyse didactique chez un analyste analysé. Il faut de fait que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui puisse lui aussi avoir été analysé. Alors évidemment, il y a un paradoxe. Comment faire avec celui qui invente la psychanalyse ? Est-ce que Freud peut être analysé ? Et Freud considère qu'effectivement, il ne peut pas être analysé par quelqu'un d'autre que lui. Et l'auto-analyse procède de cette proposition-là, de cet étrange paradoxe. Comme il y a un premier moteur immobile dans la métaphysique d'Aristote, ou une cause incausée pour expliquer Dieu, c'est Freud nous disant « personne ne peut m'analyser, moi j'invente la psychanalyse, je la découvre, eh bien je suis le seul à pouvoir m'analyser ». D'où cette logique de l'auto-analyse, ou cette hypothèse de l'auto-analyse, comme une pratique qui serait révolutionnaire. Elle nous est présentée comme ça, c'est-à-dire que quand vous lisez les hagiographies, on vous parle du courage, de l'audace, de la tentative héroïque et persévérante. Je vous lis des choses que j'ai repérées et soulignées. On vous parle d'une réalisation ardue, on vous parle d'une tâche grandiose. En vous disant, Freud a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il se présente comme un conquistador, donc il a découvert un continent nouveau. Pas question de minorer ce genre de pratique, ce genre de méthode. Pourtant, si vraiment on inscrit la pensée de Freud, la pratique de Freud, ou même cette auto-analyse-là, très précisément, dans le courant de l'histoire de la pensée, on y découvre banalement ce que Pirado appelle un exercice spirituel, ce que la philosophie antique appelait des exercices spirituels. Toute la philosophie antique pratique l'exercice spirituel. C'est le christianisme qui va détruire la philosophie antique et qui va considérer que les exercices spirituels antiques, il faut les recycler. Et vous aurez à ce moment-là les logiques de confession, les logiques de prière, les logiques d'examen de conscience. L'examen de conscience, par exemple, est un exercice spirituel antique. Les stoïciens nous le font savoir. Marc Aurèle, si vous lisez les pensées de Marc Aurèle, c'est un exercice d'auto-analyse. Quand il est sur la frontière en train de contenir les barbares, ceux qu'on appelle les barbares à cette époque-là, l'empereur romain écrit ses pensées pour lui-même, donc, et en même temps, il est dans une logique d'introspection, d'examen de conscience. On cherche à savoir qui on est, comment on a vécu sa journée, est-ce qu'on aurait pu la vivre mieux, est-ce qu'on aurait pu être plus à la hauteur de l'idéal qui est le nôtre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain pour être meilleur, pour être plus sage, pour être philosophe. Toute cette pratique-là, l'exercice de l'examen de conscience, l'exercice de l'introspection, c'est extrêmement banal dans la philosophie antique. Tous les philosophes pratiquaient les exercices spirituels et proposaient une logique introspective, proposaient l'introspection. Si vous regardez les confessions d'Augustin, si vous regardez les essais de Montaigne, si vous regardez les confessions de Rousseau, si vous regardez Ecce Homo de Nietzsche, eh bien, à l'évidence, on est toujours dans cette tradition-là. Donc il faut penser l'interprétation des rêves dans cette logique de l'exercice spirituel autobiographique. Repli sur soi, retour sur soi, conscientisation de ce que nous sommes, on s'en va chercher les détails de notre être par un travail introspectif qui est censé nous apprendre un certain nombre de choses. Vous verrez quoi ? La castration, le complexe d'Édipe et un certain nombre de choses. Je propose l'hypothèse que la correspondance avec Fliss puisse être lue comme un exercice spirituel. C'est-à-dire que quand Freud écrit à Fliss, il s'écrit à lui-même. Un peu comme quand Montaigne dicte les essais au personnage qui est là, puisqu'il le dit à plusieurs reprises, je l'avais dit au moment où j'ai fait mon cours sur Montaigne, Montaigne n'a pas écrit les essais, il les a dictés. Et j'avais d'ailleurs dit à cette époque-là qu'il y avait quelque chose qui s'apparentait à la pratique analytique, l'idée qu'on puisse déambuler dans cette fameuse tour, la tour de Montaigne, et qu'un personnage était là pour recopier les choses dites et les choses racontées. Il y avait le verbe de Montaigne qui se trouvait transformé en papier, qui deviendra ensuite les essais. L'idée qu'on puisse parler, se parler, qu'on puisse écrire à quelqu'un d'autre, Fliss en l'occurrence, eh bien, à mon avis, ça rentre dans la logique d'un exercice spirituel de type antique. C'est pour ça d'ailleurs que cette correspondance a été problématique dans l'histoire du freudisme. C'est pourquoi il a fallu, Freud avait détruit, je vous l'ai dit déjà, il avait détruit ce qu'il avait reçu, lui, de Fliss. En revanche, ce que Fliss avait reçu de Freud a été conservé par Fliss. Et puis ils se sont fâchés en 1904 parce que Freud, qui ne tenait pas très bien sa langue, quelqu'un qui a trahi à de très nombreuses reprises le secret professionnel, et sur la question de la bisexualité, de l'ambivalence, qui est une théorie de William Fliss, eh bien Freud s'est accaparé cette découverte et il y a eu une rupture en 1904 entre les deux personnages. Mais de 1887 à 1904, ces deux individus-là s'écrivent de manière constante. Il y a une moyenne d'une lettre tous les 10 jours de la part de Freud et des longues lettres dans lesquelles il nous donne le détail de ce qu'il est, de ce qu'il pense, de ce qu'il croit. Il essaie des théories, des pensées, il va jusqu'au bout d'une pensée, il essaie une hypothèse, il raconte le détail de son quotidien. C'est dans une lettre à Fliss qu'il nous dit qu'il a hypnotisé quelqu'un qui est en train de dormir et que pendant ce temps-là, il peut lui écrire une lettre. Il nous donne des détails sur sa vie familiale et il nous donne un portrait. Probablement à son corps défendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un autoportrait voulu comme tel, mais c'est un autoportrait qu'on peut bricoler soi-même quand on met en perspective les 400 ou 500 pages de cette correspondance, du moins de cette partie freudienne de la correspondance à Fliss. Il nous dit qui il est et on découvre là un Freud réel qui a beaucoup déplu à sa fille, Anna Freud, qui, quand il est mort, a souhaité évidemment garder la mémoire du père et tout a été fait pour que la correspondance ne paraisse pas intégralement. Donc on a caviardé, on a recopié un certain nombre de lettres en oubliant un certain nombre de passages qui n'étaient pas évidemment à l'avantage de Freud. Et il a fallu attendre récemment pour qu'on dispose enfin d'une édition non expurgée. Et on y découvre un Freud de mauvaise foi. C'est intéressant de savoir qui est le personnage, puisqu'il nous le dit lui-même, la psychanalyse se confond à ce qu'il est. Donc on est fondé, me semble-t-il, on est fondé à aller voir qui il est, comment il se comporte. Alors je vais passer rapidement sur ces choses-là parce qu'on aura l'occasion de reprendre dans le détail à peu près chacun des moments de cette biographie. Mauvaise foi parce que j'ai eu l'occasion d'en parler, il s'agissait de la patiente qui s'appelle Emma Eckstein, dont Freud nous disait qu'elle était hystérique, et on verra que le concept était assez large pour signifier tout et n'importe quoi, et qui souffrait de saignements de nez, pour des raisons hystériques, nous dit Freud, pour des raisons névrotiques, de désir, d'ailleurs de lui-même. Il pensait que Emma Eckstein le désirait sexuellement lui-même, Sigmund Freud, et que c'est pour ça qu'elle avait des saignements de nez. Et un jour, il a fait venir son ami de Berlin à Vienne pour lui demander de l'opérer. Il l'a opéré, il est reparti chez lui, et puis il a oublié, je vous ai déjà dit, 50 cm de gaz dans le nez. Donc évidemment, ça vous fait un malade comme il en faut, avec suppuration, avec fièvre, avec etc., etc. Eh bien, Freud raconte cette aventure à Fliss qui est rentré chez lui et il explique que, bon, effectivement, ça la fout mal, 50 cm de gaz pourri dans le nez, qui ont été oubliés. Mais on voit au fur et à mesure de la correspondance que finalement, il nous dit « mais c'est pas si grave que ça, c'est pas très important, parce qu'au bout du compte, l'étiologie, elle est quand même extrêmement précise ». Elle cherche à sublimer des aventures qui sont toutes à connotation sexuelle, puisque chez Freud, ça paraît très clair. Elle est dans une logique de masturbation, et elle s'interdit la masturbation, d'où la culpabilisation, la naissance de la névrose, et puis etc. Voilà l'explication réelle des problèmes d'Emma Eckstein. Et on voit réapparaître régulièrement cette mauvaise foi. Quand il nous dit quelque chose qui ressemble à un aveu, c'est la plupart du temps pour enfoncer le clou un petit peu plus loin et dire que finalement il ne s'est pas trompé et que sa théorie, l'étiologie sexuelle des névroses, mais on redétaillera tout ça, c'est une théorie valable. Même si la réalité donne tort à la théorie, on change de réalité mais on garde la théorie. C'est un ambitieux. Il nous le dit très précisément, il nous dit qu'il veut de l'argent, qu'il veut de la réputation, qu'il en a marre d'emprunter de l'argent, de vivre sur des prêts ou sur des emprunts, et qu'il aimerait bien trouver quelque chose rapidement qui lui permette de bien gagner sa vie et de s'installer et de faire fortune dans la société viennoise, ce qui lui permettrait donc un bon mariage, la famille et puis une respectabilité auprès de laquelle il court. Il le dit très précisément, il dit qu'il est ambitieux, il dit qu'il a envie d'argent, de richesse, d'honneur et de respectabilité. Il est cupide également, et on verra ça avec une autre aventure qui est l'aventure de la cocaïne. Je vous disais qu'il avait un usage personnel de la cocaïne pour des raisons dépressives, et pour des raisons de panne sexuelle aussi, personnelle, mais aussi il avait un usage théorique en considérant qu'on pourrait probablement faire fortune avec cette substance qu'on venait de découvrir. Et il avait lu, on le sait aujourd'hui, hein, c'est pas moi qui fais ce genre de découverte, mais je vous les rapporte, on sait aujourd'hui qu'il avait lu un article présentant l'usage de la cocaïne comme une panacée. Ça soignait tout, ça guérissait tout, c'était extraordinaire, ça permettait de résoudre tous les problèmes, y compris les problèmes de nature psychiatrique, surtout les problèmes de nature psychiatrique. Et Freud considère que ça guérit tellement tout que ça guérit même de la morphinomanie. Il avait un ami morphinomane, il pensait le guérir de l'addiction à la morphine par une pratique de la cocaïne, ce qui paraît quand même un peu problématique. Et il a un ami qui s'appelle Fleischel Marxow, on reviendra dans le détail sur cette aventure, à qui il dit « injection de cocaïne et tu cesseras d'être morphinomane ». Il est mort de l'injection de cocaïne, évidemment, l'ami de Freud. Il y a des traces de ces choses-là, il y a des correspondances où Freud dit « injection ». Il a écrit un texte qui s'appelle « Sur la cocaïne » où Freud dit « injection ». Par la suite, il écrira dans sa correspondance, il dira « Je n'ai jamais dit injection, j'ai dit absorption ». Donc évidemment, il cherche à détruire ensuite toutes les preuves de cette erreur médicale qui sera la cause d'un premier mort. Il y en aura quelques autres, vous verrez. C'est un psychorigide, c'est-à-dire que quand il a dit quelque chose et qu'on lui prouve qu'il a tort, il persiste à dire qu'il a raison et qu'il ne se trompe pas. Par exemple, on va parler tout à l'heure, mais on redétaillera tout ça, l'affaire de la cocaïne, l'affaire Emma Eckstein et l'affaire de la théorie de la séduction. Freud croit que dans l'étiologie sexuelle des névroses, dans l'idée que toute névrose aurait pour origine un refoulement sexuel, il y a toujours le père. Et il y a toujours l'abus sexuel du père. Il pose cette idée, cette hypothèse, vraiment toute sommaire, que quand une femme vient le consulter, ça a été une jeune fille qui a été abusée sexuellement par son propre père. Alors évidemment, ça la fout mal, parce que quand vous rentrez chez vous et que vous dites à votre père « Est-ce que tu m'as abusé, papa, quand j'étais petit garçon ou petite fille ?» ou ce genre de choses, ça se passe plutôt mal. Donc comme vous ne remplissez pas votre cabinet avec ce genre de théorie, il abandonne la théorie de la séduction, ce qu'on appelle la théorie de la séduction. Mais vous verrez, il abandonne sans abandonner. Assez régulièrement, il revient sur cette hypothèse que, immanquablement, nombre de pères de famille abusent sexuellement leurs enfants et qu'il en va là de l'origine de pas mal de névroses. On y découvre également un Freud superstitieux. Il fait des petits signes kabbalistiques de conjuration du mauvais sort. Il trace ses trois petites croix sur sa correspondance, enfin sur la lettre à Fliss. C'était des pratiques qu'avaient les paysans dans les montagnes où il allait en vacances, et qui traçaient des croix comme ça à la craie sur la porte des étables pour éloigner le mauvais sort. On y trouve un Freud extrêmement ingénu, voire amoureux, c'est comme on voudra. Enfin, il y a des moments où on a l'impression qu'ils sont très amoureux tous les deux, qu'ils sont dans une logique de sublimation homosexuelle. Et Freud est absolument enthousiaste à l'endroit de William Fliss. Et il considère que Fliss est génial. Il a inventé une théorie des cycles qui est assez extravagante, qui est une théorie très, très numérologique, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a des cycles chez les hommes, qu'il y a des cycles chez les femmes, et que des choses arrivent en fonction des cycles. Donc si vous perdez vos dents, si vous avez des deuils dans la famille, si vous avez des saignements, si vous avez des névroses, si vous avez des migraines, si vous avez des naissances, toutes ces choses-là ont à voir avec des cycles. Donc il y a des pages entières de calcul dans la correspondance avec Fliss où il nous explique que c'est bien normal que Anna Freud soit née tel jour, telle date, à telle heure, puisque le cycle machin s'accorde avec le cycle bidule et que puisque Martha avait eu ses règles à telle date, il a fait le total. Ça ne pouvait pas ne pas arriver ce jour-là. Donc des pages entières de calcul numérologique qui font de lui quelqu'un d'un peu ingénu. Et puis un cyclotimique, je vous disais tout à l'heure que Jones parle d'une psychonévrose fort grave, et bien vous voyez, en permanence dans les lettres, il se plaint de douleurs, de souffrances. Alors l'écoulement nasal, si vous voulez savoir, la couleur du pu, le nombre de caillots, comment ça dégouline, dans quel état ça se trouve, quelle est la texture de la substance, vous lisez, il n'y a pas de détails, vous aurez tout ça. Les arythmies cardiaques, les migraines récurrentes, le tabagisme, ça c'est un... C'est une aventure assez extravagante, son rapport au cigare, 20 cigares par jour tout de même. Un furoncle gros comme un œuf au scrotum, ça j'ai trouvé ça drôle de savoir qu'il avait des furoncles au trou de balle. Et puis tous ces problèmes de constipation, de diarrhée, alors ça marche bien, c'est dur, c'est mou, c'est dur, il nous explique toutes ces choses. Bah, vous êtes au courant, hein, ça nous concerne à peu près tout. Mais il explique tout ça et il y a toute une théorie. Vous verrez qu'il y aura des thèses sur Freud, ça aura à voir évidemment avec la sexualité anale et avec la pénétration sodomique du père, évidemment. On y voit un dépressif constant, il nous parle de ses troubles endurés depuis des années, ce sont des citations dans une lettre du 7 août 1894. Il nous parle de son humeur vacillante, de sa libido défaillante, il nous parle de son état psychique misérable, 16 octobre 1895, etc. etc. On pourrait faire une longue liste. des moments où Freud nous dit qu'il est déprimé, névrosé, hystérique, dans la douleur, dans la souffrance, dans la somatisation, etc. etc. On y découvre un Freud angoissé et phobique. Il a l'angoisse du voyage en train. Mais ça, c'est facile, vous verrez. Il a vu maman toute nue dans le train et il croit que finalement, le complexe d'Édipe est né dans un wagon-lit. Donc, ça me paraît normal qu'il ait des problèmes avec le train. Il nous dit qu'il a peur de la mort. Il est obsédé par ces questions-là. Et puis, il a peur de manquer de nourriture, toujours. Et puis, la cocaïne, ça a été évidemment caché parce qu'on considérait, par sa fille et puis par les hagiographes, il fallait pas dire que Freud avait touché à la cocaïne. Je vous disais tout à l'heure que sur la fin, c'est-à-dire 1937, il a eu son cancer en 23 et une trentaine d'opérations, cancer de la mâchoire à cause de la tabagie, à l'évidence. Eh bien, il écrit que finalement, dans ce texte, hein, l'analyse avec fin et dans l'analyse sans fin, qu'on ne peut jamais affirmer qu'une guérison est définitive. Alors évidemment, vous avez des psychanalystes qui soit considèrent que tout est dit là, ou d'autres qui considèrent que rien n'est dit là. Vous pouvez toujours justifier votre incompétence en disant « mais Freud l'a dit lui-même sur la fin, une guérison n'est pas possible, n'est pas pensable, n'est pas envisageable ». On ne peut pas en finir avec ce qu'il appelle une revendication pulsionnelle. Qu'est-ce qu'une revendication pulsionnelle ? C'est ce qui fait que vous avez tel type d'obsession, tel type de passion. C'est-à-dire, si vous avez une pulsion zoophile, eh bien, on va vous apprendre à vivre avec, mais on ne la supprimera pas. Vous trouverez probablement que vous continuerez à être zoophile, et puis, si une analyse peut être utile, eh bien, elle vous fera penser que c'est une bonne chose pour le chien, et pour vous-même également. Donc le but, ça n'est pas de guérir, dit l'analyse sans fin et l'analyse avec fin, le but, ça n'est pas d'obtenir une guérison définitive, parce qu'on n'en finit pas avec une revendication pulsionnelle, et que c'est une tâche sans fin. Je cite, hein, c'est une tâche sans fin. Il distingue une analyse, hein, il distingue donc l'analyse incomplète et l'analyse inachevée. À l'évidence, quand vous dites « mais j'ai été psychanalysé et puis ça revient, comment se fait-il ? » Alors, vous verrez, on consacrera un chapitre à la question de ce que j'appelle le verrouillage sophistique. Il vous dit « oui, mais enfin non, ce que j'ai guéri a été bien guéri. S'il y a un problème nouveau, c'est quelque chose d'autre. » Donc Freud nous dit « on n'en finit jamais avec cette revendication pulsionnelle, de sorte que l'analyse n'est jamais terminée. » Je propose donc qu'on puisse penser, à partir de cette hypothèse-là, l'auto-analyse de Freud comme « jamais terminée ». Comme interminable, elle ne se termine qu'avec son décès, sa disparition, bien sûr, et qui suppose donc cette hypothèse que nous fassions de l'œuvre complète de Freud le témoignage d'une auto-analyse. On peut imaginer que l'œuvre complète, les 20 volumes d'œuvre complète, finalement, constituent un journal de bord d'une analyse interminable et donc jamais terminée. Je ne suis pas dans la dépréciation quand je dis une chose comme celle-ci, puisque je le dis pour tout philosophe, en considérant effectivement que toute écriture, toute pensée, toute production de concepts, toute production de Weltanschauung, dit Freud, enfin de vision du monde, de proposition pour une vision du monde, procède d'une autobiographie. Donc Freud est sur ce terrain-là comme sur tous les autres. Donc quand on prend ce livre qui est l'interprétation, le rêve et son interprétation, ou l'interprétation du rêve, on y voit un nombre considérable d'informations autobiographiques. Ce passage sur la mort du père, quand il nous dit que c'est le moment le plus important dans la vie d'un homme et que c'est déterminant pour lui dans ce moment de l'auto-analyse, que c'est parce qu'il lui arrive cet événement qu'il entre dans une auto-analyse et qu'il produit par la suite la psychanalyse, on y voit en permanence la peur qu'il a de la mort et l'obsession qu'il travaille de mourir à 51 ans. Il écrit dans un livre qui s'appelle « Psychopathologie de la vie quotidienne » que tous les chiffres font sens et qu'on ne choisit pas par hasard un chiffre. J'aurai l'occasion de vous faire une démonstration, enfin de vous proposer la démonstration d'un Freud qui nous dit « je donne ça par hasard comme ça, comme type de chiffre, et voilà pourquoi je les ai donnés quand on abordera la question de la numérologie ». Sur ce chiffre 51, je vous rappelle qu'on est dans un livre de science et que Freud se réclame d'un lignage qui est Copernic et Darwin. Il est l'âge où l'homme semble être particulièrement en danger, où j'ai vu des confrères mourir subitement, un autre qui, après avoir vécu une longue période d'attente, avait été nommé professeur quelques jours avant. Donc ça suffit pour ce genre de choses. Là, on est dans la théorie, puisqu'on est dans un ouvrage publié, dans l'ouvrage majeur selon son propre jugement. Dans la correspondance, il reprend cette idée-là, et il explique que, vu son âge, il lui reste 13 ans à vivre avant d'arriver à l'âge fatidique de 51 ans. Alors voilà la lettre. Il dit « J'ai une idée de compromis que je ne peux pas fonder scientifiquement, c'est que je vais encore souffrir pendant 4, 5 ou 8 ans de troubles variables, avec de bonnes et de mauvaises périodes, et qu'ensuite, entre 40 et 50 ans, je mourrai d'un coup d'une rupture cardiaque. Si cela n'arrive pas trop près de 40 ans, ce ne sera pas si mal. 22 juin 1894. De fait, c'est une idée impossible à fonder scientifiquement. On comprend pourquoi, pas besoin de développer abondamment, c'est une angoisse, et on se retrouve étonnamment dans la logique de l'hypothèse que Freud reprochait aux philosophes. Il nous disait, mais les philosophes, ils sont dans l'hypothèse, ils sont dans la proposition, ils ne sont pas dans la démonstration, ils nous disent que. Ils sont dans le performatif, ils nous disent ceci est, donc c'est, puisque je viens de le dire. Eh bien, Freud est exactement dans cette configuration-là. Il nous dit effectivement qu'il va mourir dans ces dates-là, parce que 51 ans agit comme une espèce de pôle magnétique. Pour information, il ne mourra pas d'une crise cardiaque à 51 ans, mais des suites d'un long cancer octogénaire. Dans l'ensemble des écrits, on le voit bien ici, Freud propose donc moins une théorie scientifique issue d'une méthode expérimentale qu'une psychologie littéraire issue d'une autobiographie. Je vous l'ai dit, c'était ma thèse, et ça va être la thèse de toutes les séances de cette année. De fait, il se réclame de la théorie scientifique, il se réclame de la clinique. En fait, il est dans une logique d'auto-observation, d'introspection personnelle, et à partir d'une découverte, mettons ça entre guillemets, à partir de ce qu'il croit être une découverte, ou de ce qu'il présente comme étant une découverte, eh bien, il nous dit, voilà, une hypothèse qui devient une vérité et qui devient une vérité universelle. Il extrapole, on aura l'occasion de détailler la question du complexe d'Édipe et vous verrez comment l'hypothèse, j'ai cru voir ma mère nue, dit-il, donc je l'ai désiré. Il nous dit ça et il ajoute, c'est le cas de tout le monde. Il en est ainsi pour chacun et il en a été ainsi pour chacun. Depuis la plus haute humanité jusqu'à la fin des temps, nous dit Freud, les choses se sont passées comme ça pour moi, elles se sont donc passées comme ça pour tout le monde et elles se passeront comme ça pour tout le monde. C'est la méthode, extrapolation d'une psychologie littéraire, d'une introspection littéraire. Ça vaut ce que ça vaut, là encore, je ne suis pas dans une logique de morale moralisatrice. Je regarde comment ça fonctionne et chacun des concepts freudiens procède d'une introspection personnelle, d'une autobiographie et d'une psychologie littéraire. C'est-à-dire que les concepts créés par Freud sont des concepts créés sur mesure, pour lui-même. Et vous verrez, à plus d'un moment, j'utilise les concepts freudiens pour analyser Freud, pour proposer la psychobiographie de Freud, et quelques amis qui me lisent et à qui je soumets mon travail en cours de route me disent « mais tu fais la démonstration que la psychanalyse est valable puisque tu utilises des concepts freudiens pour expliquer Freud et prétendument pour le démonter ». Je dis non, au contraire, j'utilise les concepts de Freud pour dire qu'ils sont éminemment efficaces pour expliquer Freud. C'est-à-dire que si vous utilisez les concepts de la psychanalyse pour penser Freud, vous le penserez de manière limpide et claire. À l'évidence, les concepts de la psychanalyse sont ultra efficaces pour penser Freud et le freudisme. Mais pas forcément le restant de l'humanité et les autres individus. On verra, c'est une proposition que je vous fais, je vous donnerai les détails et les démonstrations au fur et à mesure de l'année. Il y a de l'autobiographie dans l'œuvre, dans cette œuvre-là, le livre sur l'interprétation du rêve. Je vous donne quelques rêves, il y a une cinquantaine de rêves dans l'ensemble de cet ouvrage qui sont analysés par Freud. Et il parle de sa mère portée à un moment par des créatures à bec d'oiseau. On entrera dans ce rêve-là très précisément, puisque très vite, enfin, vous l'avez vu déjà, mais la grande obsession de Freud, c'est l'inceste. C'est sa grande obsession personnelle, l'inceste. Et ça explique pratiquement tout. Le rapport à la femme, le rapport à la mère, le rapport à la belle-sœur, le rapport à sa propre fille, et puis la production de ce fameux complexe d'Édipe, et puis du reste, c'est-à-dire la horde primitive, le meurtre du père, le banquet cannibale, etc. Enfin, toutes ces choses-là procèdent de cette obsession personnelle. On y voit donc dans ses rêves un oncle à la barbe blonde. Ce sont les titres, j'ai repris les titres des rêves tels qu'ils sont rentrés dans l'histoire de la littérature psychanalytique, c'est-à-dire que ce sont des rêves devenus classiques. Hein. Un fils en costume de sport, un ami qui a mauvaise mine, un autre fils myope, le père sur le lit de mort, une injection faite à Irma, une nourrice qui l'initie à la sexualité, ses années d'études, toutes les choses qui relèvent de l'imbroglio familial, parce qu'il faudra bien expliquer aussi pourquoi ce fantasme incesteux, et j'aurai une proposition à vous faire qui est assez simple. Il y a des rêves chez Freud, donc en quantité dans cet ouvrage, et puis il y a deux souvenirs majeurs, enfin deux souvenirs qui nous sont présentés par Freud comme des souvenirs majeurs. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait les penser sous la rubrique du choix originaire sartrien, c'est-à-dire du moment à partir duquel va s'articuler l'ensemble de votre existence. Il y a un moment dans l'œuvre de Freud où il met en place un concept qui est le concept de souvenir-écran. Et Freud nous dit, de temps en temps, vous mettez en avant quelque chose pour mieux cacher quelque chose d'autre. Et souvent, quand vous braquez le projecteur sur quelque chose, une interprétation par exemple, c'est souvent pour vous dispenser d'avoir à faire une autre interprétation. C'est-à-dire qu'il y a un écran qui est proposé par l'inconscient, dira Freud. Ça, ce serait une espèce de mécanisme de défense de l'inconscient qui vous proposerait un souvenir en vous disant « c'est ce souvenir qu'il faut voir » parce que pendant que vous regardez ce souvenir, vous n'en voyez pas un autre. C'est ma proposition de lecture, c'est-à-dire je vais vous faire fonctionner le concept de souvenir-écran freudien pour penser l'analyse que Freud ne fait pas et pour essayer de vous montrer que l'analyse qu'il nous donne dans cet ouvrage-là est une analyse fautive, mais qui cache effectivement le tropisme incestueux. Nous sommes dans les années 1866-67, dit Freud, il a donc 10-12 ans. Il se balade et son père lui tient la main, ils sont dans la rue, et le père lui dit que un jour, alors qu'il était bien habillé, qu'il avait un joli chapeau tout neuf, un antisémite est passé et lui a demandé de descendre du trottoir, a balancé le chapeau du père dans le caniveau et l'a insulté. Et Freud demande à son père, le petit garçon demande à son père, « Qu'as-tu fait ?» Et le père répond, « Rien. » Donc il nous dit, voilà, souvenir majeur, ce moment de l'existence de mon père, rapporté par mon père quand j'avais 10-12 ans, dit-il. Commentaire de Freud, 30 ans après, c'est dans l'ouvrage, hein, 30 ans après, il nous dit « Cela ne me parut pas héroïque de la part d'un homme grand et fort qui menait par la main le petit bonhomme que j'étais. » Il imagine donc une autre issue. Freud pense effectivement, je vous disais que Nietzsche avait écrit ça, « Si on n'a pas un bon père, sans faire un. » Et je disais que Nietzsche, dans cette formule-là, nous donnait la formule de ce que Freud appellera plus tard l'idéal du moi. Et Freud considère qu'il faut relire cette information-là à partir de l'histoire d'Abilcar Barca, qui a été le père d'Hannibal, qui a été un grand militaire sémite, qui a été humilié par Rome et les Romains. Et Abilcar Barca fait promettre à son propre fils, Hannibal, qu'il le vengera de l'humiliation que lui ont infligé les Romains. Donc il y a un homme humilié qui fait promettre à son fils de laver l'humiliation et qui suppose qu'effectivement Rome est l'enjeu. Il s'agit de punir Rome et les Romains. Interprétation de Freud, Rome, bah, évidemment, c'est le judéo-christianisme. C'est le Vatican, mais c'est l'assemblage judéo-chrétien. Donc il faut punir la Rome chrétienne parce que le fameux antisémite, eh bien, c'est un chrétien. De toute évidence. Donc il faudra lui faire payer ça un jour. De sorte que, jeune garçon, Freud lit les récits des guerres puniques et il fait d'Hannibal à ce moment-là le héros à partir duquel il peut organiser la totalité de son existence. Il s'agit, au moment où il expérimentera lui-même, Freud, l'antisémitisme viennois, il s'agit d'entrer à Rome en vainqueur. Mais vous verrez qu'entrer à Rome en vainqueur, ça veut dire autre chose que ce que Freud veut bien nous dire. Parce que lui-même, un peu comme le petit poussé, il met ça et là un certain nombre de petits cailloux. Et quand vous suivez les petits cailloux, vous finissez par découvrir ce que lui-même n'aura pas personnellement découvert. Freud a toujours eu le désir de modèles. Et il y a eu des modèles réels, Breuer par exemple, ou Charcot. On verra qu'il a prénommé quelques-uns de ses enfants à partir des modèles qui ont été ces figures réelles rencontrées dans son histoire. Et puis il y a des moments historique qui joue un rôle majeur dans son œuvre. Il y a des modèles fantasmatiques. Hannibal en fait partie. On verra. Moïse aussi. Et puis Édipe également, bien sûr. Et vous verrez que nombre de traits de caractère de ces individus-là sont des traits de caractère qu'on retrouvera dans le tempérament de Sigmund Freud lui-même. Hannibal est fidèle à la parole donnée au père. C'est un personnage qui ne cessera de détester Rome et les Romains. Il y avait des talents de stratège et de tacticien qui a été abondamment calomnié et dont la réputation a survécu aux calomnies, puis qui s'est suicidé aussi. Ça fait des points communs, je dirais, avec Freud. On n'entrera pas dans le détail du calque ou du décalque possible de la vie d'Hannibal sur la vie de Sigmund Freud, mais quand on fait un mélange, une espèce de patchwork, on voit qu'effectivement, il y a des moments édipiens, il y a des moments qui ont à voir aussi avec Moïse et quelques autres. Il a un rapport très particulier à Rome, Freud, et il nous le dit lui-même, qu'il a un rapport extrêmement singulier. Il a travaillé sur la topologie de la ville, il a travaillé sur des plans, et travaillé sur l'architecture, sur les couches successives. Vous savez que c'est un truc assez singulier à Rome, et vous avez effectivement une couche impériale, et puis qu'ensuite vous avez une couche républicaine, puis qu'ensuite vous avez une couche monarchique, et puis que vous avez éventuellement les couches qui ont rendu possible quasiment le mythe, Romus et Rémulus, ce genre de choses, vous voyez Tite Live et Tacite, et il a travaillé sur cette histoire des superpositions archéologiques en considérant qu'il en allait là d'une espèce de métaphore qui rendrait bien compte de l'inconscient. Il a travaillé sur le tourisme également, dans cet endroit-là, et on verra que le Moïse de Michel-Ange, qui se trouve au Vatican, est un Moïse qui le saisira, et je tâcherai de vous montrer pourquoi, effectivement, elle a des raisons de le saisir. Il écrit à sa femme, et vous verrez quand je vous donnerai l'interprétation, vous comprendrez ce que peut signifier chez Freud une lettre à sa femme disant qu'il aimerait bien vivre à Rome, qu'il aimerait bien s'installer à Rome. Ça veut dire quitter le poste de professeur qu'il avait à Vienne à cette époque-là. Donc il y a un vrai désir de cette ville particulière. Et en 1897, il fait le voyage, il s'en va vers Rome et il s'arrête à Trasimène. Il ne peut pas pénétrer dans Rome. Il ne peut pas entrer dans Rome. Il se trouve interdit de rentrer dans cette ville et il entend une voix qui lui dit « Jusqu'ici et pas au-delà. Jusqu'ici et pas au-delà. » Et c'est ce que Hannibal a entendu quand lui-même s'est trouvé à Trasimène, c'est-à-dire une inhibition tout à fait particulière, puisque l'inhibition freudienne a à voir avec l'inhibition d'Hannibal. Souvenez-vous qu'il est là théoriquement pour venger son père d'une humiliation qui lui a été rapportée quand il avait 10 ou 12 ans. Il finira par faire le voyage en 1897, et vous verrez, c'est le moment de la découverte du complexe d'Édipe et d'un certain nombre d'autres choses, et il écrit de ce voyage « Ce fut le point culminant dans ma vie ». C'est pas rien de dire dans une lettre que quand on est allé à Rome, ça a été le point culminant de sa vie. Il dit à Fliss, 3 décembre 1897, « Ma désirance pour Rome est d'ailleurs profondément névrotique ». C'est assez singulier, pour essayer de voir ce qu'il y a derrière l'écran, c'est assez singulier de voir un Freud qui aimerait tellement son père qu'il viendrait le défendre. Parce que partout où son père apparaît dans l'œuvre, c'est le père castrateur qui est là, qui est présent. Quand le père arrive, il y a deux rêves, un rêve notamment où le père est sur son lit de mort et où il y a une espèce de jouissance de Freud dans cette situation-là, puisque d'un seul coup, son père mort est un héros, mais mort seulement. Donc il est dans une perspective qui n'est pas celle qu'il nous dit. Il n'est pas dans la perspective d'une vengeance du père. Il est dans une autre perspective et qui est tout à fait visible quand on se réfère à une note de 1911 et qui se trouve dans l'interprétation du rêve. C'est une note dans laquelle Freud nous dit qu'il a publié l'analyse typique d'un rêve édipien camouflé. Et par un jeu de citations, il cite quelqu'un qui cite quelqu'un qui cite, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lire à plusieurs reprises, vous êtes dans une note, quand je lis la citation, elle est de qui ? Et Freud cite Otto Rank, qui est le psychanalyste dont il a publié ce fameux texte, qui lui-même cite Tite Live. Et dans ce texte de Tite Live, on apprend qu'un oracle a appris au Tarquin que le pouvoir sur Rome reviendrait à celui qui, citation, le premier donnerait un baiser à sa mère. Et Freud nous dit, un rêve de commerce sexuel avec sa mère apporte toujours le présage favorable de la prise de possession de la terre-mère. Ce qui veut dire, si on en croit ce que Freud nous dit sans vouloir le dire, que derrière ce fameux souvenir écran d'un père qu'il aurait tellement aimé, qu'il l'aurait vengé, dont il aurait vengé l'honneur sali, eh bien, il y aurait quelque chose de tout à fait autre. C'est-à-dire que pour le coup, il s'agit de posséder la terre-mère qui est la mère. Et je m'appuie sur les analyses données par Freud lui-même. Moi, je ne fais pas d'analyse de ce type-là, mais on aura l'occasion de voir comment la masturbation pour Freud, donnant le fameux personnage qui donne son nom à l'onanisme, eh bien, cette masturbation, elle est pour lui un désir de s'unir à sa mère, puisque quand il se masturbe, le sperme tombe sur la terre, et que la terre, c'est la mère. Et que donc, dans la masturbation, nous dit Freud, il y a ce désir d'union avec la mère, et derrière toute masturbation, il y a toujours le fantasme incestueux. C'est Freud, hein, je ne vous dis pas que je pense comme ça, mais je vous dis même plutôt que je ne pense pas comme ça, mais c'est la proposition de Freud qui nous dit effectivement que ce rêve-là le dit très précisément, la possession de la terre-mère elle peut inhiber Freud à l'évidence, puisque rentrer dans Rome, vous l'aurez compris, c'est rentrer dans sa mère, je vais vite. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que Freud ait pu être inhibé par ce genre de projet. A priori, c'est facile de rentrer dans une ville. A posteriori, symboliquement, c'est plus facile de rentrer, difficile de rentrer dans le symbole en question. Je passe rapidement parce qu'il faudrait aussi dire deux mots d'un second souvenir, pas rêve cette fois-ci, mais un second souvenir, qui met en perspective le père une fois de plus, mais pour le coup pas dans la logique du souvenir écran. Là, ça paraît nettement plus clair. Je vous disais tout à l'heure que le père n'apparaît que comme un père castrateur, un père humiliant, un père qui empêche le désir de l'enfant de s'unir avec sa propre mère. Il a 7-8 ans, Freud nous dit-il, il entre dans la chambre de ses parents, et il s'en va faire tout bêtement pipi dans le seau hygiénique. Ça vous est probablement arrivé. Ça n'a pas forcément induit toute votre existence par la suite. Mais le père aurait dit, c'est le propos que rapporte Freud, « ce garçon ne deviendra rien de bien ». Donc il fait pipi dans le seau. Le père dit « ce garçon ne deviendra rien de bien ». Et des années après, Freud reprend cette information-là et la commente. Citation. « Il faut que cela ait été pour mon ambition une terrible vexation ». Car des allusions à cette scène reviennent sans cesse dans mes rêves et sont régulièrement rattachées à l'énumération de mes réalisations et succès. Comme si je voulais dire, tu vois, je suis quand même devenu quelqu'un de bien. Donc on voit effectivement que dans cette aventure, le portrait du père se dessine particulièrement. Il nous dit que la mort de son père est l'occasion du début d'une auto-analyse parce que ce moment-là est un moment essentiel dans la vie d'un homme, etc. On comprend bien que ça puisse jouer ce rôle a priori. A posteriori, il faut simplement voir qu'effectivement, c'est intéressant parce que ça libère la place pour le petit garçon qui se trouve désormais débarrassé du père qui lui faisait ombrage et qui peut donc accéder plus facilement à sa mère. On peut donc imaginer que dans la perspective freudienne, et là encore, je vous le redis, j'utilise les concepts freudiens pour penser Freud, non pas que je leur crédite une autre valeur que celle-ci, mais quand on veut penser Freud, on utilise ces concepts-là et on comprend effectivement que les deux souvenirs en question ne sont pas contradictoires du tout. Vous avez un premier souvenir qui montre un père qui était faible avec les forts, les antisémites, et un deuxième souvenir qui montre un père fort avec les faibles, le petit garçon qui fait pipi dans le pot de chambre de papa. Donc il ne s'agit pas pour lui, il s'agit moins de venger son père que de se venger de son propre père. Donc il faudra toujours penser à ce schéma particulier du père dans la pensée de Freud, parce que vous verrez quand on abordera la question de la horde primitive, du meurtre du père, de la loi, de la création de la religion, de la philosophie, etc. Il y aura toujours ces scènes primitives qui seront là. Quelques mots pour finir avec le rapport à son propre père. Son père met un certain temps à mourir, il y a une agonie, et il raconte ça avec Fliss. Il lui raconte qu'il aimerait bien le rencontrer, mais que le vieux est en train de mourir, c'est l'expression qu'il utilise. Fin 93, on est à cette époque-là. Les démonstrations ne sont guère élégantes sur ce passage-là. En 97, je vous le redis, on en a parlé, mais je reviendrai plus précisément sur ce détail, il élabore sa fameuse théorie de la séduction. Il nous dit que son père a été un pervers qui a abusé sexuellement de ses enfants. Ça, c'est une lettre du 8 février 1897. Et cette année-là, 1897, eh bien, elle est essentielle, elle est majeure, puisqu'il y analyse deux rêves qui sont connus sous la rubrique « Ella » et « Monter les escaliers déshabillés », deux rêves dans lesquels son père est un héros, mais parce qu'il est mort. Donc, ça corrobore ce que je vous disais tout à l'heure. En fonction de la thèse qui est donnée dans l'interprétation du rêve, et ça aussi on redéveloppera, et je cite, « Le rêve est l'accomplissement déguisé d'un souhait réprimé, refoulé. » Freud nous dit « J'écris un livre majeur, et dans ce livre majeur, il y a une phrase majeure. « Le rêve est l'accomplissement déguisé, entre parenthèses, d'un souhait réprimé, entre parenthèses, refoulé. » À partir de la clé que nous donne Freud pour comprendre le rêve, nous dit-il, mais plutôt son propre rêve, eh bien, effectivement, on voit que cette année-là, elle est cardinale. C'est l'année où il renonce aux travaux neurologiques. Je vous ai dit qu'il travaillait sur des questions de sexualité des anguilles. Donc, on est dans la physiologie, dans la biologie de la question pulsionnelle. Il renonce aux thèses de sa psychologie scientifique également. Il décide d'écrire son livre, le rêve, l'interprétation du rêve. C'est l'année qu'il donne comme l'année du début de son auto-analyse. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que je ne pensais pas qu'il y ait un début et une fin, contrairement à ce que la légende dit, mais que l'auto-analyse de Freud, elle s'est poursuivie toute son existence. C'est l'année où il s'occupe de la pierre tombale de son père. C'est l'année où il fait enfin ce fameux voyage à Rome. Débarrassé de son père, il peut effectivement rentrer dans cette ville qui lui était interdite. Et puis c'est également l'année où le 15 décembre, Et là, vous verrez, on reviendra sur le détail de cette aventure parce que la fabulation est majeure. C'est cette année-là, 15 décembre 1897, qu'il va nous parler de cette fameuse aventure du complexe d'Édipe, qui est évidemment une pathologie individuelle, particulière et subjective, qui va devenir, par la grâce de Freud, un tropisme universel qui est censé définir une nouvelle normalité. Voilà, merci beaucoup. Alors, je voudrais rectifier une petite erreur que commise la semaine dernière quand je vous ai parlé de cette fameuse lettre dans laquelle Freud nous faisait savoir qu'il fallait toujours mettre en perspective le mélomane et le pétomane. Et je vous ai parlé d'une lettre d'Arnold Zweig. Donc, mea culpa, la lettre est bien de la date que je vous ai donnée, elle est bien de Zweig, mais elle est de Stefan Zweig et pas d'Arnold Zweig. Vous repréciserez vous-même hein, quand je me tromperai en parlant d'interprétation des rêves, c'est l'interprétation du rêve ou c'est la science des rêves. Enfin, on est dans des traductions diverses d'un même titre. Voilà le tome 4 de cette œuvre complète qui fait 20 volumes, dans laquelle vous avez, œuvre complète, tout ce que Freud a publié de son vivant. Et puis, puisque mon hypothèse était que la correspondance pouvait être pensée comme un exercice spirituel, eh bien je renvoie à Pierre Radeau, parce que j'ai toujours un vrai plaisir à inviter à lire Pierre Radeau, à lire ou à relire, qui a publié « Exercice spirituel et philosophie antique » chez Albin Michel. Autre texte important, majeur, Michel Foucault, « L'herméneutique du sujet », ce sont les cours au Collège de France, 80-82. C'est une coédition Hautes Études, Gallimard et Seuil. C'est-à-dire, il a été extrêmement influencé, Michel Foucault, par Pierre Radeau. Et ça a produit des beaux effets, notamment un de ses cours, une année de séminaire, l'herméneutique du sujet. C'est-à-dire la construction du sens du sujet ou la construction du sujet comme un être de sens. C'est une proposition intellectuelle extrêmement intéressante, la construction de soi par l'écriture de soi, et l'écriture de soi qui intégrerait la correspondance, c'est un chantier que je livre à ceux qui, aux étudiants qui auraient envie de trouver des sujets, me semble-t-il, originaux, enfin pas travaillés.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur son, Centre dramatique national de Normandie, Joël Migne. Prise de son, Pascal René, France Bleu Basse-Normandie. Mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation, Véronique Villa. Demain, les questions des auditeurs du CDN de Normandie à Michel Onfray.